La communion d'esprit, ça existe. Je pense que vous n'en doutez pas. Et on en a encore une preuve ce matin par la parole que Florence nous a donnée. Elle a vraiment confirmé le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et ce thème, on pourrait, si on avait un thème à donner à ce message, on pourrait l'appeler les clandestins. Je sais que c'est à la mode, hein. Les clandestins sont à la mode aujourd'hui, on parle beaucoup de clandestins. Et justement, quand on parle de clandestins, on ne sait pas forcément qu'ils sont là, mais ils y sont. Et je crois aussi que dans nos vies, nous transportons, d'une façon des fois inconsciente, des clandestins. Des clandestins qui nous empêchent aussi de vivre pleinement notre vie chrétienne, de nous épanouir pleinement. Nous avons tellement entendu de choses sur la puissance, sur la gloire, sur la fidélité de Dieu. Et certains d'entre nous, nous avons été levés entre deux pages de Bible. Donc on en a entendu des choses. Hein. Et le problème, c'est que ça n'a pas toujours été concret. Et si j'avais à identifier ce que j'appelle les clandestins, alors ma liste n'est pas exhaustive, hein, mais j'en ai pris quatre volontairement. Le premier qui pourrait s'appeler les blessures du passé. Le second qui s'appelle l'étroitesse d'esprit. Le troisième, les espoirs déçus. Et le quatrième, la pression culturelle. Les blessures du passé. Les blessures du passé qui, à cause de différentes choses, et je crois bien souvent que même dans nos milieux, alors qu'on nous a parlé, comme j'ai dit il y a un instant, de la grâce, de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu, combien d'entre nous avons été mis sous pression à cause de, j'oserais dire, de serviteurs malveillants. Où on nous a mis des pressions, où bien souvent on s'est servi de nous pour que ces braves gens arrivent à un certain sommet de leur ministère. Et on s'est retrouvé là avec vraiment cette notion d'échec où effectivement on a grandi et puis on s'est rendu compte qu'on a simplement été des instruments. Et quand on a voulu faire un pas de plus, ça a été rangement vertical, serpillère, pouf. Et on n'est plus bon à rien. C'est grave, c'est blessant, c'est frustrant, et bien souvent aussi on devient méfiant. Et on a tendance à jouer l'huître. Hein. Dès qu'on nous touche un peu, pouf, on se ferme. Et on ne veut plus rien savoir. Non, non, moi je veux bien être dans l'église, je veux bien venir au culte le dimanche matin, mais surtout ne me demandez rien. Merci, j'ai déjà donné. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et je crois que ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de les dénoncer. Je ne tiens pas du tout à juger qui que ce soit, quoi que ce soit. Parce que des fois aussi, les choses ont été faites d'une façon inconsciente. Je ne dis pas que moi-même, dans mon ministère, dans mes 46 ans de ministère, j'ai pas fait subir certaines choses à certaines personnes. Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas eu de retour sur le sujet. Mais je crois que et là, on se retrouve devant une notion d'échec, des blessures du passé dont on a vraiment de mal à se défaire. Et je crois que ce matin, par rapport à cette notion d'échec, le Seigneur vient simplement se pencher sur nous et nous inviter à vivre une guérison particulière. À venir toucher un domaine de notre vie particulier, dans le sens que, et si le Seigneur veut faire cela dans nos vies ce matin, je dirais, ne soyons pas comme dans le psaume, je ne me rappelle plus, c'est le psaume 118, hein, les fils d'Éphraïm qui ont tourné le dos à la guérison de Dieu. Je crois que ce matin, nous sommes appelés à accepter cette guérison pour nous. Il y a tellement de choses dans nos vies qui ont été des blessures, des moments très forts qui se sont inscrits dans notre disque dur, et c'est là. Et on a tout fait pour bien les mettre au fond, et que surtout, elles n'apparaissent jamais. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, oh, certainement, je n'ai pas le monopole de ce genre d'expérience, et puis il suffit qu'il y ait ce qu'on appelle en psychologie. Faut que je recule un petit peu. Ok, pardon. Ce qu'on appelle en psychologie les situations analogiques. Il suffit qu'il y ait une expérience dans notre vie, quelque chose qui ressemble à ça, où subitement ça remonte comme un vérin puissant là, et ça nous met complètement en vrac. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand on prie souvent pour les gens, on oublie une chose. Hein, on parle souvent de l'esprit, on parle du corps, mais on oublie l'âme. L'âme qui est le siège de nos émotions et qui est un peu le disque dur de tout l'enregistrement de tout ce qu'on peut vivre. Et souvent, on oublie de prier pour la guérison de l'âme, pour la visitation du Saint-Esprit dans l'inconscient. Et c'est important que le Seigneur vienne visiter aussi, ce domaine, ce département dans notre vie. Hein? On a besoin d'être purifié, cela nous a été rappelé ce matin par la parole de Florence, et c'est juste. On a besoin d'être lavé dans le sang de Jésus et par le sang de Jésus de nos péchés, de nos fautes. Mais il y a aussi nos blessures qui sont là. Et ces blessures, bien souvent, on ne sait pas les gérer. Et le Saint-Esprit veut venir visiter notre inconscient pour que simplement nous puissions aussi vivre une libération de ces choses-là. Afin que ça fasse partie de ces choses qui partent de notre vie, afin que nous puissions vivre aussi dans ce domaine-là et dans le domaine émotionnel une vie victorieuse. Et pas toujours être... Et moi, ça me gêne, et vous le savez, je sais que je l'ai déjà dit, hein, chez les charismatiques aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'émotionnel. Hein, toute la louange, bon, je ne parle pas d'ici particulièrement, là, je fais une généralité, hein, je vous rassure, je ne suis pas en train de juger l'équipe de louange. Merci David. Je sais que tu as le ministère pour ça, je ne suis pas inquiet. Mais bien souvent, on travaille uniquement sur l'émotionnel, sur l'affectif. Hein, il faut sentir Dieu. C'est magnifique, les gens qui sont en direct avec le ciel, ça c'est extraordinaire. Et souvent c'est ce qui se passe. Hein, on travaille sur l'émotionnel. Non, non. Je ne travaille pas sur l'émotionnel, je travaille sur la présence de Dieu. Je sais que Dieu est là. Alors il peut y avoir effectivement de l'émotionnel. Mais l'émotionnel ne fait pas dire que Dieu est là. Et bien souvent, on fourvoie les gens avec cela. Hein, je crois que vous l'avez raconté, l'histoire d'une retraite des RNC, où une brave sœur un jour est venue me voir pendant un temps de louange super. On était à peu près 800 personnes dans la salle, donc ça avait quand même un peu de monde, et ça bougeait pas mal. Et puis il y a une sœur qui vient me voir qui me dit « Frère, vous sentez Dieu ?» Et je lui ai répondu « Je suis désolé, on n'a pas le même Dieu. » Elle me dit « Comment ça ?» Je dis « Non, moi le mien, il est propre, il se lave, il ne sent pas. » Je pense que j'ai cassé sa louange pour un moment. Mais voilà, c'est toujours le fait de sentir. Travaille pas. Et je pense que c'est parce que nous avons été tellement blessés sur l'émotionnel qu'on veut compenser cet aspect émotionnel. Et ça nous rassure spirituellement. Vous voyez les amis? Ouais. Dans l'intimité, je peux avoir de l'émotionnel. Ok? Mais pas forcément tout le temps dans l'émotionnel. Je suis un théologien dans la présupposition. Dieu est. Et pas forcément toujours, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? C'est terrible de vivre comme ça, uniquement avec ses émotions. Hein, si le matin vous vous levez, que ouais, vous êtes de bonne disposition, ah, Dieu est là, c'est super, alléluia, je suis sauvé. Et si un matin, pour X raisons, vous vous levez pas bien, vous avez l'impression que vous avez perdu votre salut, alors vous vous mettez à le chercher à quatre pattes, comme une vieille dame qui avait perdu son dentier, là, en train de le chercher partout, parce que ça répond pas à l'émotionnel. L'émotionnel n'est pas là. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Dieu est. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et je n'ai pas besoin de sentir quelque chose. Je sais. Et je sais pourquoi, comme je disais hier après-midi, parce que je suis un tabernacle ambulant. Parce que je suis porteur du Saint-Esprit. Partout où je suis, le Saint-Esprit est. Et ça, c'est important. Alors, c'est pour ça que tout ce qu'on a pu nous dire, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu comprendre, bien souvent, il faut... Et tout ce qui a meurtri aussi nos émotions, le Seigneur, ce matin, veut venir visiter. ces domaines de notre vie, afin que nous soyons libérés, que nous puissions vraiment vivre quelque chose de nouveau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, non. Hein ? Moi, je compare ma relation avec Dieu avec ma relation avec mon épouse, j'espère que je ne vous choque pas. Et je ne suis pas toujours dans l'émotionnel avec Isabelle, même si ça fait 42 ans que nous sommes mariés, et si on s'envoie 10 SMS par jour et 10 coups de téléphone. Non, pas qu'on se surveille, seulement pour se dire qu'on s'aime. Non, c'est vrai. Hier, elle m'a inondé de photos. C'était super. Mais, et après, il y a des moments plus intimes où il y a plus d'émotions. Mais on n'est pas toujours dans l'émotionnel. Et il faut arrêter avec ça. Parce que, n'oubliez pas une chose, hein, sentiment. Et chez les charismatiques, on est très fort pour chercher à ressentir. Alors ça, c'est une chose vraiment, c'est un domaine que le Seigneur veut réellement visiter dans nos vies. Et puis, il y a le deuxième clandestin, l'étroitesse d'esprit. Comment nous nous considérons? Comment nous nous considérons? Vous savez, le peuple d'Israël, vous savez pourquoi le peuple d'Israël n'est pas rentré dans le pays promis? Exactement, Nombre 13, 31, il y en a qui connaissent leur Bible. Ils se sont vus comme des sauterelles. Et à partir de là, les ennemis les ont considérés comme des sauterelles. Et nous, on est toujours en train de se dire, oui, mais... Oui, mais tu sais, moi, si on vient demander à un frère de faire quelque chose, tu sais, je crois vraiment que tu as la capacité de le faire. Oui, mais tu sais, moi, avec ce que j'ai vécu, avec ceci, avec cela, je peux pas parce que j'ai... Qu'est-ce que nous a dit Florence ce matin? Le Seigneur est passé sur toutes ces choses-là. Je sais qui je suis. Relisez Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, verset 14. Et là, vous avez les 14. Je dirais ça, c'est ma carte d'identité spirituelle. Je suis un homme qui a été racheté. Je suis un homme qui a été adopté. Je suis un homme qui a été élu. Qui a été prédestiné. Et s'il vous plaît, n'allez pas vous emmêler les crayons avec la prédestination. La prédestination, c'est très facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement destiné avant. Et je suis destiné à quoi? Verset chapitre, Éphésiens chapitre 1er, verset 6. Je suis destiné à la louange de la gloire de Dieu. Et le verset 9 qui me dit, je suis appelé à servir la louange de la gloire de Dieu. Voilà ma prédestination. Et voilà ce que je suis. Je suis un élu. Et quand je dis je suis un élu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire seulement qu'il y a eu une tombola dans le ciel et que j'ai gagné le bon numéro. Être élu, ça veut dire que je suis unique. Et si mon fils aîné était là, il se lèverait, il dirait alléluia. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Il m'a fait le coup plusieurs fois déjà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il oserait le faire. Je suis unique. Est-ce que vous pouvez penser que chacun d'entre vous, vous êtes unique? Que comme vous êtes, Dieu l'a voulu. Que là où vous êtes, et que sans vous, le plan de Dieu serait incomplet. Même si vous êtes, pour vos parents, pour je ne sais pas trop qui, un accident de pilule ou de préservatif, peu importe, pour Dieu, vous êtes là, et le plan de Dieu, si vous n'étiez pas là, serait incomplet. Vous savez, c'est, je ne sais pas à qui je disais ça récemment, si je vois à qui je disais, prenez un puzzle de 5000 pièces avec un super décor. Toutes les pièces sont bien arrangées. Manque de peau, il en manque une. Ah, ça fait râler ça. Hein, on l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. Purée de poids. Et on a passé des heures à faire ce machin et puis il manque une pièce. Et quand vous allez montrer le puzzle à vos amis, qu'est-ce qui va se passer? La seule chose qu'ils vont voir et la première chose qu'ils vont voir, je dirais, c'est cette foutue pièce manquante. Eh, mes amis, vous êtes. Sans vous, le plan de Dieu serait incomplet. Mais vous êtes complet. Parce que Dieu vous a pensé à vous avant la fondation du monde. Moi, quand je lis ce texte, une fois que je l'ai lu, il faut ouvrir les deux portes pour que je sorte. On n'est pas n'importe qui. Rendez compte ? Nous sommes des pièces uniques. Quand on pense l'argent qu'on va dépenser pour aller voir la Joconde, et regardez-vous, vous êtes unique et c'est gratuit. Eh oui. Alors, arrêtons de nous considérer comme des moins que rien. Arrêtons de nous considérer comme des gens de peu de valeur. Pensez-vous que le Dieu créateur qui nous a tant aimés aurait envoyé son fils si nous valions pas un clou ? Si nous étions du gros tas ? La majorité d'entre nous considérant que nous sommes assis sur un tas de fumier alors que nous sommes assis sur une mine de diamants. Parce que Dieu a mis des valeurs en nous. Mais pour X raisons, on n'ose pas. Oui, on dit c'est de l'orgueil. Bah, où c'est de l'orgueil ? Je sais, l'apôtre Paul dira, je sais qui je suis et je suis et ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et alors ? Et j'ose dire que je sais qui je suis aujourd'hui. Mais c'est pas juste pour, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'être droit dans ses bottes. Ce qui est tout à fait différent. Et que nul ne peut me ravir de sa main. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne sera un long fleuve tranquille. Mais que nul ne peut me ravir de sa main. Et il y a ce psaume merveilleux dans la parole. C'est le psaume 18. Où il dit ceci. Ça a été un chant pendant un temps. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Je ne suis pas appelé à vivre dans des catacombes. Je ne suis pas appelé à vivre sous un tas de fumier. Dieu m'a placé dans un lieu élevé. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 1, verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je suis dans l'éternité. Je suis dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et ça, c'est ma place. Et ça, c'est notre place. Et c'est super. Parce que quand je me mets à prier, il y a des milliards de témoins qui prient avec moi. Parce que je prie du ciel et je ne prie pas de la terre. Ce n'est pas un devenir. Ce n'est pas un effort que j'ai à faire. Christ l'a accompli. Et moi, je dois le saisir et le croire. Et dire, voilà ma position. Pourquoi beaucoup de chrétiens chancellent ? Pourquoi beaucoup de chrétiens doutent ? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la place dans laquelle Dieu les a placés. Et ils essayent de faire des efforts pour y arriver. Vous pouvez jeûner jusqu'à devenir épais comme mon petit doigt, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que c'est déjà fait. Et on prie souvent comme ça. On prie souvent comme ça. Vous êtes d'accord de prier avec moi pour que l'objet que j'ai dans ma main devienne une montre ? Eh oui, Charles, tu as raison. Elle l'est déjà. Mais ça sent le vécu, hein ? On prie souvent comme ça. Seigneur, j'aimerais tellement être. Qu'est-ce que tu aimerais déjà tellement être ? Tu es. Tu es parce que j'ai accompli ce que tu devais être. Et aujourd'hui, tu es. C'est pas tu seras. Souvenez-vous quand Moïse a été convoqué par Dieu devant le buisson ardent. Moïse a dit, qui dois-je annoncer ? Et Dieu lui a dit, tu diras, je suis, m'est apparu. Eh bien aimé, nous sommes greffés sur le je suis. C'est pas hier et c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Je suis. Je suis greffé sur le je suis. Donc, là encore, hein, toute mon étroitesse d'esprit, Dieu veut la visiter pour faire, je dirais, excusez l'expression, péter, rompre les jougs qui pèsent sur nous, ces jougs de captivité qui nous ont rendus tellement étroits et qui nous empêchent souvent de discerner la volonté de Dieu, de nous enthousiasmer pour ce que Dieu veut faire avec nous, pas seulement pour nous, mais avec nous. Et arrêtons de dire que nous sommes des quantités négligeables. Chaque fois que nous disons ces choses-là, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 32 si je me souviens, ou 28, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et nous n'avons aucun droit d'attrister le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Dieu veut nous mettre au large. Mais ça ne dépend pas simplement de Dieu, ça dépend aussi de nous. Hein, je continue le psaume 18, au verset 38, il dit « Je poursuis mes ennemis et je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. » Ça, je me passionne avec ce texte. « Je les brise et ils ne peuvent se relever et ils tombent sous mes pieds. » J'ai la victoire. C'est pas « j'aurai la victoire », c'est « j'ai la victoire ». La force de Dieu est en moi. Et cette force de Dieu vient m'élargir, vient m'épanouir. Et pas seulement me rester... Vous savez, vous pouvez venir au culte tous les dimanches, apporter votre dîme le plus régulièrement du monde, être quelqu'un de très fidèle. Mais tant que vous ne rentrez pas dans l'action que Dieu dans laquelle Dieu vous a destiné, vous ne dérangez pas l'ennemi, vous pouvez venir au culte tous les dimanches, hein, il va vous foutre une paix royale. Et vous aurez l'impression d'être super. Commencez à vous lever. Vous allez avoir des jours qui chantent et peut-être des lendemains qui commencent à déchanter. Mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis, il ne bougera pas. Et même s'il me titille, je dis non, non. Et quand le diable vient vous parler de votre passé, parlez-lui de votre avenir, de son avenir. C'est un truc qu'il n'aime pas. Eh oui. Donc là aussi, tout ce qui touche à notre étroitesse d'esprit, le Seigneur vient aussi ce matin faire enlever ces choses-là de nos vies, afin que nous puissions être mis au large, afin que nous puissions entrer réellement dans ce que Dieu a pour nous. Et puis le troisième clandestin, je l'ai appelé les espoirs déçus. Il y a deux magnifiques textes à ce sujet, dans la parole. Luc chapitre 24 et Jean chapitre 21. Le premier, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Hein? Alors souvent on parle des pèlerins d'Emmaüs en disant ils ont eu quand même la grâce et la joie d'avoir Jésus qui a fait route avec eux. Jusque là, c'est juste. Mais posons-nous la question, pourquoi Jésus a fait route avec eux? Pourtant, quand on sait qui étaient ces hommes, Clopas, qui était un homme marié et il avait deux fils, hein, qui s'appelaient Jacques le Mineur et Joas. Et il était marié à une femme qui s'appelait Marie, pour changer un peu. Et Marie était une disciple de Jésus, elle suivait Jésus. Et cet homme, Clopas, pour moi, fait partie de les deux disciples qui partent sur Emmaüs, font partie de ces 70 que Jésus avait envoyés deux par deux. Et vous revenez, vous vous souvenez, quand ils sont revenus, ils ont dit, même les démons nous sont soumis, yes. Et Jésus leur dit, on se calme, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et donc voilà deux hommes qui ont vécu quand même des choses extraordinaires. Ils ont accompagné Jésus. Ils ont vu la fille de Jaïrus se réveiller. Ils ont vu 12 000 personnes être nourries avec 5 pains et 2 poissons. Pas mal, hein? On aimerait voir la même chose, hein? Ils ont vu Lazare sortir de leur tombeau, de son tombeau, hein, en faisant la momie, là, et en faisant des sauts de kangourou pour arriver jusque dehors, puisqu'il était ficelé de partout. Waouh! Ils ont entendu le message de Jésus, bâtissez le temple et je le détruisez le temple et je le bâtis en 3 jours. Ils ont entendu quand Jésus leur a dit, je vous donne rendez-vous à Jérusalem, le premier jour de la semaine, alors que Jésus est ressuscité, eux, ils partent à Emmaüs, 6 kilomètres. Et l'évangéliste Marc, j'aime beaucoup ce qu'il dit à propos des pèlerins d'Emmaüs, il dit, deux d'entre eux sont partis à la campagne. En général, quand on va se mettre au vert, c'est que ça coince quelque part. On a un chouïa de dépression. Et ils vont. Et Jésus vient faire route avec eux. Et ils ont une tête tellement longue, comme diraient mes amis suisses, qu'ils auraient pu s'y encoubler dedans. Tellement qu'ils ont la face longue. Complètement déçus. On pensait que ce serait lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi des espoirs déçus? Malgré tout ce qu'ils avaient vu. Parce qu'ils s'étaient fait un Jésus à leur image. Ils s'étaient taillés, j'oserais dire, une image taillée. Une image de Jésus. On pensait que ce serait lui. Jésus n'a jamais dit qu'il allait délivrer Israël. Mais voilà, il s'était forgé quelque chose. Et bien souvent, nos espoirs déçus viennent de ce que nous avons pensé de Jésus. Ou de ce qu'on nous a fait croire sur Jésus. Et qui souvent n'a rien à voir avec le Jésus de l'Évangile. Et Jésus est obligé de leur, en repartant de Moïse, de leur dresser le portrait de toute la promesse que Dieu a forgée pour son peuple et pour les autres. Et la conclusion de ce texte est impressionnante. Leur présence, la présence de cet homme qu'ils n'ont pas encore reconnu est tellement agréable qu'ils disent « Mais reste avec nous, le soir approche !» Et là, ils prennent le pain. Et je ne veux pas vous choquer en disant ça. Quand Jésus prend le pain et rend le pain, j'ai l'impression qu'il leur fait « Coucou, c'est moi !» Et il disparut de devant eux. Et ces braves deux disciples qui sont partis, comme j'ai dit toujours, de Jérusalem à la vitesse d'un escargot à qui on avait coupé les pattes, ils rentrent à Jérusalem en TGV. Il est réellement ressuscité. Toute la fausse image, tout ce qui était complètement désuète de leur vie est tombé à ce moment-là. Pour avoir la réelle révélation de qui est Jésus. Et je vous invite, et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin aussi, c'est de nous donner une nouvelle, dans ces temps de l'Avent, dans ces temps de Noël, une nouvelle révélation de qui il est. Nous avons tellement de tendance encore à voir Jésus marcher avec ses disciples dans le sable d'Israël. Jésus est glorifié. Il est assis à la droite de Dieu. Il siège en majesté. Et tant que nous verrons Jésus sur la terre, nous-mêmes nous verrons sur la terre et nous ne pourrons pas régner en majesté avec lui. Et c'est pour ça que bien souvent la puissance de l'Église manque. Parce que nous voyons toujours Jésus dans son corps terrestre, dans son corps physique. Il est glorifié et il nous a donné son héritage. Ça, je crois que je vous l'ai déjà fait une fois. Hein, l'histoire de cet homme qui rentrerait ici, affligé d'une immense fortune. Non ? Je ne vous ai jamais raconté cette histoire. Alors, je vais vous la raconter. Ce n'est pas une prophétie, je vous rassure. Imaginons que maintenant, il y a un homme qui rentre dans la pièce, dans l'église, affligé d'une immense fortune et qui nous donne 2 millions d'euros à chacun. Je précise, ce n'est pas une prophétie. Sinon, après, vous allez me traiter de faux prophète. Alors d'abord, je peux commencer à m'arrêter de parler. Vous n'allez plus m'écouter. Et vous allez commencer à gamberger dans votre tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 millions? Hein, ça va. Là, ça va tourner plein pot, là. Hein. La machine à laver, là, ça va y aller. Hein. Les plus spirituels d'entre vous vont dire, je vais quand même en donner un peu à l'église. Certains diront, je vais quand même garder une poire pour la soif. Et puis tout le reste, ça va cheminer grave. Hein. Et c'est sûr que vous allez vous servir de cet héritage, ce qui est normal. La Bible nous dit que Jésus, en remontant au ciel, nous a donné son héritage. Vous êtes d'accord ? Seulement, là, dès qu'on parle spirituel, on a une autre attitude. Ah oui, je vais le garder pour l'éternité. Pourquoi faire pour l'éternité? Quel est l'héritage que Jésus vous a laissé et nous a laissé? La puissance de marcher sur les démons, la puissance de guérir les malades, le salut, la puissance de communiquer le salut aux autres. Et vous allez faire quoi de l'héritage dans l'éternité? Vous allez guérir les malades? Oh, vous avez du succès. Hein, vous pouvez y aller. Hein. Chasser les démons, ils seront tous en train de prendre un bain dans l'étang de feu et de soufre. Eh. L'héritage, c'est pour maintenant. Seulement notre étroitesse d'esprit, notre manque de... Ouais, cette étroitesse d'esprit, ce joug qui pèse sur nous, et ça c'est diabolique, nous empêche de prendre réellement la parole de Dieu au sérieux. Dieu dit. Alors je le fais. Peu importe ce qu'on peut penser de moi. Pas de problème. Pourtant, c'est que je sois obéissant. Et si vous commencez à obéir, le joug de l'étroitesse d'esprit va tomber. Vous allez voir des choses. Vous allez vivre des choses. Pas seulement les voir, mais vous allez les vivre. Vous allez les incarner. Elles vont vous amener beaucoup plus loin. Je n'ai pas toujours parlé comme ça. Moi aussi, j'étais quelqu'un de très religieux. BCBG. Bon chrétien, bonne grâce. Mais on parlait de choses saintes. Non. Ça, c'est la religion. Et je ne suis pas un religieux. Et j'ai compris que là aussi, dans ma propre vie, avant de vous parler de ces clandestins, ils étaient chez moi. Hein. Et comme diraient mes amis italiens, quatre cavilles. Loin, dehors. Et puis il y a le quatrième, qui est peut-être celui qui est le plus subtil, c'est la pression culturelle. Ah, la culture. C'est terrible, hein? Moi, j'ai découvert que j'avais une culture en me frottant à la culture de mes amis siciliens. Qu'est-ce qu'ils ont pu m'énerver? Quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses, pourquoi je m'érigeais contre eux? Parce que c'était ma culture qui s'opposait à la leur, et vice-versa. Ouh, et c'est là que j'ai compris en 1992 que j'étais bardé de culture. Et qu'il fallait peut-être aussi que je me défasse de ma culture. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une culture, pas du tout. Mais la culture peut nous empêcher de comprendre la parole de Dieu. La culture peut nous empêcher d'obéir réellement à ce que Dieu veut. Et il y a un texte que je vais lire et qui est... Ça peut peut-être vous choquer, parce que là, on est tellement aussi pris par notre culture évangélique, où on nous a mis, comme je disais hier après-midi, je crois, des lunettes sur la figure, en nous disant que le texte, c'était comme ça qu'il fallait lire, c'était comme ça qu'il était compréhensible. Alors, si vous voulez, je vais vous amener dans un texte qui risque de, pas par l'interprétation, par la lecture que j'en fais, et qui est tiré de l'hébreu, qui risque de vous perturber un petit peu. Genèse, chapitre 22. Ce qu'on a appelé le sacrifice d'Isaac. Rectification, c'est le sacrifice d'Abraham. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, va-t'en pour toi-même. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Quand même particulier quand Dieu dit ça. Ton unique, celui que tu aimes. Et Ismaël en a fait quoi? Abraham avait deux fils. C'est particulier ça aussi. Mais parce que c'est le fils de la promesse, tout simplement. Et va-t'en au pays de Morija, et là, élève-le au-dessus de toi sur une des montagnes que je te dirai. Nos versions ont dit holocauste. Et je trouve qu'en français, souvent, on a employé des mots qui ne sont pas appropriées à la situation. Quand on parle de la Shoah, on parle de l'Holocauste. Quand il y a des catastrophes, vous entendez au journal télévisé, c'était apocalyptique. Que je sache, l'apocalypse, ça veut dire révélation. Et quand on voit un village en Italie détruit, il y a, comme révélation, il y a mieux. Et Dieu ne dit pas à Abraham de sacrifier son fils. Il dit de l'élever au-dessus de lui. En hébreu, c'est le terme « o-ola ». Élève-le au-dessus de toi. Et Abraham, verset 3, se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Isaac, à ce moment-là, avait 38 ans. Il n'est pas monté en poussant le landau, suivi par la nourrice. Là aussi, on a plein d'images dans notre tête, hein. Et vous allez comprendre, et c'est très important, de saisir que Isaac, à ce moment-là, était déjà un homme, était un adulte, pas un gamin. Moi, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Mais c'est un rabbin qui m'a dit non, il avait 38 ans. D'où il a tiré, j'en sais rien. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir qu'Abraham, ce matin-là, selle son âne de bon matin. Je pense qu'il y avait belle lurette, qu'Abraham n'avait jamais scellé son âne. Hein. En général, c'était ses boys qui devaient le faire. Hein. Et là, il scelle son âne lui-même. Donc, il part en catimini, de bon matin. Parce que quand même, dans sa tête, ça doit être une sacrée machine à laver. Hein. Attends, Dieu me donne un fils, et il me demande de le lui redonner. Parce que là encore, il a le poids de la culture. N'oublions pas qu'Abraham était un serviteur de la lune et du soleil, et qui faisait passer ses fils par Moloch. Le poids de la culture. Donc il scelle son âne et il monte à Morija avec deux jeunes serviteurs. Deux jeunes qui ne connaissent pas du tout les habitudes du patron. Comme ça, on ne sera pas surpris. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent d'une façon fusionnelle. En français, c'est « ils marchaient tous deux ensemble ». En hébreu, c'est « ils marchaient d'une façon fusionnelle ». Et c'est là que Dieu l'attend. Et au bout d'un moment, Abraham laisse ses serviteurs et prend juste Isaac avec lui, le couteau, le feu. Mais il y a un bémol dans tout ça. Il y a aussi la foi d'Abraham quelque part. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? La question qui tue, qu'il ne fallait pas poser. Et c'est sûr qu'Abraham est un homme de foi. Il ose dire, Dieu se pourvoira lui-même. C'est la foi. Une foi qui est peut-être aussi empreinte de doute. Donc de se dire, comment on va se retrouver là-haut et comment on va faire. Ça va jusqu'à ce qu'Abraham, et pour vous dire à quel point cet homme était fusionnel avec son fils, c'est qu'un gamin, un homme de 38 ans, je pense à un de mes fils, à David, qui est aussi costaud que Guillaume, si je me mettais à ficeler David, je pense qu'il me met deux pains. Il m'en met deux, quoi, me disant, tu fais quoi là ? Mais tellement qu'il était fusionnel, ça paraît évident pour Isaac. Et il y a tout le filtre de la culture qui est là chez Abraham. Et il va jusqu'à ficeler son fils, le coucher sur un bûcher et pointer le couteau. Vous vous rendez compte comment il faut être fusionnel pour en arriver là ? Et l'ange vient l'appeler. Abraham ! Et il n'est pas en train de donner un diplôme. Hein. Il est en train de dire, tu vas faire la bêtise de ta vie. Et alors l'ange lui dit, tu peux tourner la tête de ce côté-là ? Regarde ce qu'il y a dans le buisson. Et qu'est-ce qu'il y a dans le buisson ? Un bélier. C'est bizarre, c'est pas un agneau, c'est un bélier. Et le bélier, c'est qui ? C'est le père, c'est pas le fils. Ben ça, ce bélier m'a posé des questions pendant des années. Hein. Qu'est-ce que venait faire ce bélier, ce machin-là, retenu par les cornes ? quand j'ai repris un peu l'hébreu et tout ça, je me suis dit, oui, mais c'est le Père, c'est pas le Fils. Et c'est le Père qui avait besoin d'être détaché du Fils pour que le Fils puisse continuer. Vous voyez comme quoi la culture peut nous retenir, nous donner une mauvaise interprétation de ce que Dieu dit. Abraham a compris que Dieu lui avait parlé. Abraham, ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas de foi. Non, non. Je suis convaincu qu'Abraham était un homme de foi. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux le dit. Abraham fait partie de la galerie des portraits dans Hébreux 11. Mais il a entendu la parole de Dieu et il a filtré la parole de Dieu par sa culture. Et bien souvent, nous filtrons la parole de Dieu par notre culture. Et notre culture, à nous, Européens et Français en particulier, c'est ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Il faut que tout soit clair, soit carré. Et une fois que j'aurai bien compris, alors je vais pouvoir agir. Les Juifs disent de nous, vous ne pouvez pas vous coucher tant que vous n'avez pas de réponse à vos questions. Et eux, ils disent de même, nous, on se régale de se coucher avec des questions. Parce qu'on sait que Dieu va y répondre. Et nous, c'est le contraire. Il faut d'abord que tout soit bien clair. Et une fois qu'on aura tout bien posé, que ce soit tout bien clair, alors on va commencer à agir. On va se lever pour obéir. Ça, c'est notre culture cartésienne. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et une fois que j'ai fait mon plan et que j'ai tout compris, alors je vais me lever. Vous êtes obligé de tout comprendre. Vous souvenez de ce cantique qui dit « Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons ». Il n'est pas dit « Fais ton plan, crois-y et avance ». Je me lèverai. Et c'est ce que Dieu nous appelle ce matin. C'est à nous lever. Pas forcément en comprenant tous les contours de tout. Moi, je bénis le Seigneur que quand il m'a parlé il y a 24 ans ou 25 ans, j'ai pas tout compris. Heureusement que j'ai pas tout compris. Comme j'ai dit hier après-midi, j'aurais écrit Jonas 2, le retour. Je serais parti dans l'autre sens. Heureusement que j'ai pas tout compris. Parce que si j'avais tout compris, je serais jamais parti. Et je comprends pas tout aujourd'hui encore, je vous rassure. Mais je continue. Parce que je sais qui je suis et je sais qui m'a appelé. Et je continue à le suivre. Même si je passe pour un fou. Mais je sais que je le suis, alors ça ne me gêne pas. Et c'est ce que Dieu nous invite ce matin. À ce que ces quatre clandestins qui obstruent notre vie, qui nous encombrent, qui nous embêtent, soient éradiqués dans notre vie. Afin que nous puissions nous lever selon la volonté de Dieu. Et pas avoir des choses qui nous retiennent. Je voudrais bien, mais je peux point. J'ai tellement de cordes qui me tiennent. Quand je pars avec mon bateau, en général, je largue les amarres. Je ne pars pas avec le quai. Pas ce que j'en ferai d'ailleurs. Voilà. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de larguer les amarres. Tant qu'un bateau est attaché au bord, il ne peut pas aller au large. Ça, c'est une vérité de la balise. Et si nous voulons vraiment prendre le large, alors il faut larguer les amarres. Notre étroitesse d'esprit, nos blessures du passé, toute notre déception. On a parlé des pèlerins d'Emmaüs, on aurait pu parler aussi de Pierre, quand il dit dans Jean 21, je retourne à la pêche. Ras-le-bol, toutes vos histoires, c'est bon quoi. Je retourne à la pêche. Et là aussi, il va se faire retrouver par Jésus. Et puis notre culture. Tellement de choses culturelles qui nous paraissent naturelles, mais qui sont complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'on soit libéré de ces choses-là, afin de vraiment entrer dans ce processus, non seulement de régénération, mais d'obéissance et de se lever. Afin que l'Église soit réellement le témoin dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. nous sommes le sel de la terre. Que ce soit sur le plan économique, dans tous les niveaux, que ce soit sur le plan spirituel, Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Et on se complaît à être la queue. Ça fait vachement spirituel. Mais ce n'est pas spirituel du tout. Parce que c'est contre la volonté de Dieu. Dieu qu'on veut qu'on soit à la tête. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est seulement la volonté de notre Père. Alors pourquoi ne pas l'être ? Amen. Je vous invite à vous lever. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit. Merci parce qu'encore ce matin, ton Saint-Esprit vient nous visiter. Et lorsqu'il vient nous visiter, ce n'est pas pour nous juger. C'est seulement pour agir avec douceur, avec tact en chacun de nous. Lorsque tu viens révéler certains clandestins qui sont dans notre vie, ce n'est pas pour nous condamner, c'est seulement pour nous purifier. Afin que nous soyons des hommes, des femmes, des servantes et des serviteurs toujours plus prompts, toujours plus prêts, toujours plus conformes à toi pour le service auquel tu nous as appelés. Et Père, je veux vraiment te demander ta grâce pour chacun de mes amis ce matin. Et je prie pour que ceux qui se sont... reconnus face à ces clandestins. Pardon, j'ai une interrogation. Quels sont ceux qui ont le sentiment d'avoir été, à cause du passé, je dirais, le mot est fort, abusés, violentés, par des serviteurs ou par des ou dans une structure d'église. Et j'aimerais vraiment que vous vous avanciez. C'est pas pour vous condamner, hein. C'est juste pour prier pour vous. Et le Seigneur me demande d'avoir une démarche auprès de vous et je tiens à la vivre. Si je la vis pas, je désobéis. Et si vous vous reconnaissez par là, je vous invite simplement à vous avancer.
David, tu peux venir jouer du piano pendant ce temps-là. C'est un temps de ministère, hein, prophétique aussi.
Vous pouvez vous resserrer un petit peu. Je suis Dijon. Venez, venez, venez. Je ne positionnerai pas, je vous promets. Oui, sur deux fils, ce n'est pas gênant. C'est surtout l'important de... Ce que le Seigneur... J'ai interrompu ma prière parce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais n'oublie pas qui tu es. Et je veux simplement vous demander pardon en tant que serviteur de tous ces gens qui vous ont maltraité, qui vous ont peut-être même castré spirituellement, qui vous ont empêché d'aller plus loin, alors que vous étiez débordant d'idées, débordant de zèle. Non, on vous a formaté. Et moi, je veux vraiment vous demander pardon de tous les abus que vous avez pu vivre. Et je vous demande vraiment, au nom de Jésus, de recevoir ce pardon. C'est sûr que la vengeance pourrait être légitime. Mais Jésus a dit à Pierre, celui qui manie l'épée, mourra par l'épée. Et ce matin, vous avez cette, Dieu vous fait cette grâce de seulement venir à lui et lui dire, ok, je décide de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Afin simplement que je sois libéré. Bien souvent, vous avez rechuté, vous êtes, comme on dit, reparti dans le monde, tout simplement parce que des hommes, des femmes vous ont castré. Et moi, je prie au nom de Jésus ce matin que la grâce de Dieu, que le zèle qui était débordant en vous puisse revenir sur vous au nom de Jésus. Puisse revenir en vous parce que vous accordez votre pardon. Vous avez décidé de dire oui, je pardonne. Je décide de plus en vouloir. Je considère que ces choses sont passées. Mais la grâce de Dieu ce matin vient sur moi et me donne cette opportunité de recoller à ce que Dieu avait mis en moi dès le début. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que ce ne soit pas un chant de tristesse, mais un chant de joie, un chant d'allégresse. Je suis pardonné. Parce que je pardonne. Et je suis libéré de ces jougs qu'on a fait peser sur moi. Et je brise au nom de Jésus ces jougs qu'on a fait peser sur vous. Je brise cela au nom de Jésus. Afin que vous retrouviez la force, la joie, la vigueur. Rends-moi le zèle que donne ton salut. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit dépose en vous ce zèle au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'ai cette parole de Jean 21 qui résonne dans mon esprit pour vous. C'est ce que Jésus dit à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Je pense que c'est ce que Dieu vous dit ce matin. Parce que vous recollez à votre destinée, la grâce de Dieu fait que Dieu vous met au large. Il y a des choses que vous aviez voulu faire et qu'on vous a empêché de faire. Et maintenant Dieu te dit, ok, c'est moi qui veux t'amener. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire dans les endroits où on t'a empêché d'aller dans le passé. Maintenant je veux que tu y ailles. Alors vas-y. Vas-y parce que c'est le temps de Dieu, parce que c'est mon temps. Et en agissant et en obéissant comme cela, vous vous alignez sur l'actualité de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Allez, vous pouvez retourner à votre place. Reste là, reste là, reste là. Excuse d'être si péremptoire. C'est un conseil, reste là. J'aimerais aussi juste prier pour ceux dont la culture, le prisme de la culture, les ont souvent empêchés de comprendre réellement la parole de Dieu. Et quand je parle de culture, ce n'est pas forcément la culture ethnique, c'est aussi la culture évangélique, hein, où on nous a tellement bien formatés, bien carrés, bien machin, où en fait on n'a plus envie de lire la parole, parce que chaque fois qu'on lit la parole, on n'a pas l'impression de recevoir quelque chose de Dieu, mais on a l'impression de réciter ce qu'on nous a dit dans le passé. Et c'est vachement inconfortable. Et là, je sais de quoi je parle. Aussi. J'aimerais simplement, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, venez. Ça paraît un peu bizarre, mais venez. Et je vais prier pour vous sur le sujet. Il n'y en a que deux, excusez-moi de vous dire, ça m'étonnerait. C'est bien que vous soyez venus, vous avez du courage, mais je pense qu'il y a plus que ça. Ah ben c'est bien, c'est pas grave. L'important, c'est de partir sans clandestin. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est de partir sans clandestin. Hein, c'est pas grave si tu vas et si tu reviens, c'est pas un problème. Ça. Dans la mesure où le Seigneur t'en convainc, c'est pas un problème. Faut pas du tout te sentir bizarre. Tu sais, moi, je pars du principe suivant, que quand la douche coule, l'important, c'est d'être dessous. Si tu es à côté, c'est ton problème. Mais c'est dommage, parce que tu as la grâce qui est là, et ça serait dommage de ne pas en profiter. Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu te caches? Seigneur, merci pour les bien-aimés qui sont là devant toi. Tu vois combien la culture ethnique, la culture évangélique les a formatés et a mis un bouchon sur ce qu'ils sont pour empêcher réellement de recevoir ta parole telle que tu veux la leur donner, la leur transmettre. Et je prie vraiment pour chacun au nom de Jésus que je dirais ce bouchon, et je fais sauter ce bouchon au nom de Jésus, afin que ta grâce, que ton esprit de révélation, ton esprit d'illumination puisse réellement les pénétrer. Que j'irai ta parole prenne du relief. J'irai que ta parole chante alors qu'ils vont la lire. Et qu'ils comprennent réellement quelle est ton intention pour chacun d'entre eux. Merci pour la grâce que tu leur fais ce matin. Merci pour ces jougs que tu enlèves, que tu brises au-dessus de leur tête. Seigneur, vous dit ce matin, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus marcher courbé, vous allez marcher debout. Parce que je vous ai enlevé réellement vos fardeaux. Ce joug qui pesait sur vous a été enlevé. Sachant que le joug que je mets sur vous est un joug léger, doux et léger. Désormais, vous vous attelez à moi. Et je m'attelle à vous. Et je vais vous conduire dans ma parole. Et j'oserais même vous dire que le Lévitique va vous paraître super. Il y a des choses que vous n'avez jamais compris et que vous allez comprendre. Parce que le bouchon est enlevé, le joug est enlevé. Et ce n'est plus et vous n'avez plus le filtre de la culture évangélique. Père, je prie pour le renouvellement de l'intelligence spirituelle de chacun de ses amis au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.